Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline avec Julien Drey, avec Jean-Sébastien Ferjou, Maître Golnadel, encore plus en forme, Jean Garrigue du Comité d'Histoire Parlementaire. Je ne résistais pas au plaisir de vous faire écouter cet échange truculent qui s'est déroulé au Conseil municipal de Paris entre Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Rachida Dati, la reine des Punchline. Elle rend hommage à notre émission tous les jours. Écoutez cet échange, pas piqué des hannetons.
Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection, encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati. À vous la parole.
Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Hein. Voilà. Ça c'est votre bilan. Voilà, même dans le 11e,
ça fait 20 ans que vous perdez toutes les élections, c'est vraiment dommage pour
votre nom. Toujours battu sur votre nom. Ça vous collera à vie. Voilà, quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues,
je préfère ce qui me colle à vie que ce qui vous colle à vie.
Ah, ça fait mal, hein. Ah, on s'en remet pas, hein.
Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire très très mal. Je le sais. Et dans l'avenir, ça va vous faire encore plus mal.
Nous, on est là. Vous étiez à Abidjan.
Et moi, je suis là.
En Arménie, vous êtes partout, sauf à Paris. Donc voilà. Là, on va vous ramener. Alors là, vous allez descendre sur Terre.
C'est difficile pour vous d'aller dans ces endroits-là, surtout en Arménie.
Vous allez descendre sur Terre. Donc, Madame Hidalgo, vous allez descendre sur Terre parce que là, les réalités vont vous rattraper.
Voilà. Là, c'est les tontons flingueurs au conseil municipal de Paris. Non. Alors, bizarre, Anne Hidalgo et Rachida Dati, c'est pas l'amour fou. Julien Drey, il y a une vraie concurrence politique, évidemment, entre ces deux femmes politiques.
Oh, une concurrence, je sais pas, il y a un règlement de compte. C'est clair que Rachida Dati n'a quand même pas digéré sa défaite municipale. Mmh. Et c'est clair que Hidalgo, évidemment, n'a pas non plus forcément la situation la plus facile au sortir de cette présidentielle. Bon, mais ça fait partie des joutes parlementaires. Bon, et comme c'est deux caractères trempés et qui, en plus, ont toutes les deux peut-être des comptes à régler, ça explose. Aujourd'hui, quoi.
Ça donne échange truculent.
Je reconnais qu'entre mon cœur balance davantage vers Rachida Dati, mais c'est quand même des drôles de mœurs quand on donne la parole à quelqu'un, dans le cadre d'une séance qui doit quand même avoir une certaine tenue, de précéder de ce genre de commentaire.
On ne sait pas ce qui s'est passé.
Oui, avant, et on ne sait pas ce qui s'est passé.
J'ai pas vu tout le film, peut-être.
Allez, un dernier mot là-dessus. Non, on n'y passe pas 10 ans, mais c'était juste...
Quand Jaurès et Clémenceau s'affrontaient à la tribune de la Chambre des députés en 1906...
C'était pareil.
C'était 10 000 km au-dessus.
C'était toujours mieux avant.
Non.
C'est parce que ce sont des femmes politiques, peut-être. C'est parce que ce sont des femmes.
Sans faire du sexisme.
Mais vous en faites un tout petit peu quand même. Je suis très vigilante là-dessus.
Honnêtement, j'ai quand même fait assez de vie parlementaire pour savoir que ce type d'échange, ça arrive régulièrement, notamment.
Mais ce type d'échange, ça arrive régulièrement.
Attendez, pas tous en même temps.
En revanche,
Jean-Sébastien Ferjou.
Non, mais ce type d'échange, ça arrive régulièrement. Évidemment que c'était une boutade, la parité ou la présence de femmes qui ont envie de faire de la politique, évidemment.
J'espère bien que c'était une boutade.
Non, mais souhaitable. En revanche, imaginez que parce qu'il y aurait plus de femmes, ça change les mœurs. Non, l'être humain est un être humain.
La politique, c'est la politique. On va parler de la France
cette
insoumise.
Mise au point s'impose,
on a évoqué ces derniers jours l'affaire Éric Coquerel, oui. Qui a été. Il y a eu une plainte contre lui pour tentative d'agression sexuelle, il me semble. Et là, l'affaire Tabouaf-Robmondi. Vous vouliez nous en parler, Maître Golnadel. Tabouaf, qui donc devait se présenter comme candidat aux législatives et qui finalement n'a pas été candidat parce qu'il avait lui aussi des affaires d'agression sexuelle. Aujourd'hui, il dit que la France insoumise l'a privé d'une procédure juste et équitable et que Clémentine Autain, qu'il a rencontré avant de retirer sa candidature, lui a dit de ne pas dire que c'était pour des raisons de l'agression sexuelle qu'il devait se retirer, mais qu'il fallait dire que c'était à cause du racisme.
Ça
vous surprend, maître.
Des mots stock compassionnel est trop limité pour que M. Tabouaf m'inspire la moindre compassion. Je vous le dis franchement, mais cela étant, quand on regarde les choses d'un peu loin, chaque jour est un nouveau jour pour les insoumis. On voit déjà qu'ils sont extrêmement sévères lorsqu'il s'agit des autres, mais lorsqu'il s'agit de M. Coquerel, alors là, ils oublient complètement leur conception féministe excessive, de mon point de vue. Ils les oublient. Mais là, il y a un rebondissement dans le rebondissement. C'est que Tabouaf a indiqué que Mme Autain lui avait demandé, dans un café, en 5 minutes, de donner sa démission, puisqu'il y avait une femme qui se plaignait, mais on ne donnait pas son nom. Il n'était pas question de donner son nom. Et donc, il fallait qu'il donne sa démission, mais pas en indiquant que c'était pour des raisons sexuelles, mais pour des raisons de racisme. Donc, il faut se mettre à la place de Tahabouaf, j'essaye, même si c'est difficile. Il faut reconnaître quand même que quand on est dans ce cadre-là, que d'autres aussi ont connu, ont été maltraités également. Donc, je vous avoue que je ne sais pas si ça tient de la comédie ou du drame.
Allez, on ferme bientôt la parenthèse.
Non, mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que rapporte, en tout cas, Tahabouaf de sa conversation avec Clémentine Autain, puisqu'elle lui dit, pendant 1000 ans, les femmes n'ont pas été entendues, donc tu payes peut-être pour les autres, c'est injuste, mais c'est comme ça. Oui. Et je trouve que c'est très caractéristique de l'extrême gauche. Vous savez, on peut sacrifier les bourgeois, on peut sacrifier X ou Y. À partir du moment où on ne respecte plus les droits d'un individu, aucun individu ne mérite dans un état de droit de voir ses droits sacrifiés au bénéfice d'une catégorie quelle qu'elle soit. Sauf. Parce que on lutte contre le sexisme, c'est très bien, mais pas en sacrifiant les droits de Tahabouaf ni de quiconque.
Sauf M. Ferjou, qu'elle ne tient pas ce langage-là, M. Coquerel.
Alors, non,
parce que
Julien Drey, un dernier mot sur cette histoire.
À partir du moment où on est dans l'hypocrisie, on est...
Julien Drey.
Moi, j'attends la version de Clémentine Autain, si vous me permettez, parce que maintenant, on est dans un système où ça part dans tous les sens. C'est pas un ange, M. Tahabouaf, dans la bataille politique, de ce que j'ai vu sur la manière dont il tweetait auparavant, etc. Bon, peut-être qu'il est innocent sur cette affaire-là, mais c'est pas un ange. Et c'est par ailleurs quelqu'un qui sait aussi jouer des opportunités politiques. Voilà, pour prendre ses revanches.
Mais même s'il n'est pas innocent, le sujet n'est pas qu'il soit coupable ou innocent, c'est pas lui d'en décider. Le sujet, c'est de permettre une procédure qui, justement, respecte les droits contractuels.
J'attends d'avoir la version de Clémentine pour savoir si elle a tenu véritablement ses propos ou si c'est pas exactement ça.
J'aimerais qu'on parle d'un sujet extrêmement important qui est le rapatriement en France de 35 enfants et 16 mères qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes en Syrie. C'était une demande répétée des familles qui demandaient une politique plus humaine de la part de la France. C'est la première fois qu'il y a un rapatriement aussi massif d'enfants et de mères qui, depuis la chute du califat de l'État islamique en 2019. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Sandra, c'est un changement radical de la politique de la France qui, jusqu'à présent, ne ramenait les enfants qu'au goutte-à-goutte, c'est ça ? Au compte-goutte, plutôt.
Pour des raisons humanitaires, mais aussi au vu d'une situation sécuritaire qui se dégrade en Syrie, la France modifie sa politique sur les femmes de djihadistes retenues dans les camps du nord-est du pays, sans indiquer toutefois si cette démarche sera généralisée. Alors que jusque-là, l'État français considérait qu'elles devaient être jugées sur zone, 16 d'entre elles ont été ramenées ce mardi, prises en main par la justice immédiatement, puisqu'elles faisaient l'objet soit d'un mandat de recherche, soit d'un mandat d'arrêt. C'est le cas, par exemple, d'Emily Koenig, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique, d'avoir appelé à attaquer la France et d'avoir participé à des vidéos de propagande. Elle a été placée en détention provisoire peu après son arrivée sur le sol français. Avec ses mères, 35 enfants, dont 7 orphelins, ont pu atterrir en France. L'un d'entre eux, sur le point d'avoir 18 ans, a été placé en garde à vue parce qu'il est soupçonné d'avoir pu participer à une association de malfaiteurs terroristes. Quant aux autres, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, vont pouvoir voir un médecin, être suivis par un psychologue ou encore, selon leur âge, être suivis par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils vont être placés en famille d'accueil le temps que le juge des enfants regarde s'ils ont de la famille en France et si ceux ou ses parents ou grands-parents, la plupart du temps, sont en mesure de les accueillir. Un processus qui peut prendre plusieurs mois.
Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson. J'ajoute que Emily Koenig, donc, qui vient d'être placée en détention provisoire, avait été placée par l'ONU sur sa liste noire des combattants les plus dangereux. Julien Drey, changement de pied de la France qui décide de rapatrier plus massivement les enfants qui sont français et les mères qui étaient dans les camps dans la zone syro-irakienne.
Je ne suis pas sûr que ce soit un changement de pied sur cette question-là. Je pense que le changement de pied, il est ailleurs.
Il est où?
Le changement de pied, il est que les Kurdes, pour l'instant, détiennent plus de 9000 prisonniers et que, jusqu'à maintenant, tous les pays payaient pour qu'ils les gardent là. Et eux disent, vous ne me donnez pas assez d'argent, d'abord on n'y arrive pas, on a une pression terrible parce qu'on préférerait dégager un certain nombre de forces pour pouvoir sécuriser nos territoires. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec M. Erdogan. l'entrée de la Suède et de la Finlande. Il est en train de la marchander dans l'OTAN. Il est en train de la marchander contre des capacités nouvelles, contre les Kurdes de Turquie et aussi les Kurdes syriens, parce qu'il n'en a pas fini. Il a toujours dans l'idée de pénétrer dans le territoire syrien, comme il avait commencé, pour éliminer les Kurdes. Et la question qui se pose, c'est ce que malheureusement la France et d'autres pays européens sont pas discrètement en train de se retirer. Est-ce que ce qu'on voit là et qui apparaîtrait comme un geste de clarification, etc., c'est pas le fait que finalement on sait qu'on va lâcher les Kurdes et qu'on essaye de se protéger comme ça.
Maître Gonadel.
Je suis totalement de cet avis.
Mais on a raison de rapatrier ses enfants et ses mères.
Non mais attendez, d'abord, sur le plan géopolitique, c'est une honte totale. La presse, de manière béate, a été très contente que la Turquie cède pour que l'Ukraine puisse... Enfin, pour les autres pays, plutôt.
Non, Suède et Finlande.
La Suède et la Finlande, pardon. Entre dans l'OTAN, mais... Le peuple kurde a été sacrifié sur l'autel de ce concept politique-là. C'est ni plus ni moins. Alors, comme on sait que ça va très mal se passer, on préfère les rapatrier. J'ai pas d'état d'âme là-dessus, dès l'instant où les femmes, parce que les femmes, elles doivent être traitées, sauf à être sexistes, exactement comme leur assassin de mari. Exactement de la même manière. Dès l'instant où elles sont mises hors d'état de nuire, le plus sévèrement possible, parce qu'elles ne m'inspirent pas, elles non plus, le moindre commencement de compassion, j'ai pas d'état d'âme sur le sort de ces malheureux enfants.
Okay. J'ajoute que, dans la bonne vie, il vaut mieux qu'elles soient dans les prisons françaises que là où elles étaient, parce que le risque, c'est qu'elles s'échappent. Il y a déjà eu une attaque où les Kurdes ont perdu plusieurs centaines de combattants. Et on sent que, malheureusement, les réseaux de Daesh sont en train de se reconstituer. Et la tentative, c'était... Dans ces camps-là, ce qui se passe, c'est qu'elles disent toutes, tous ceux qui sont là, ils disent tous qu'ils attendent leur libération par Daesh. Et pour reprendre la lutte armée.
Par l'État islamique, c'est ça. Jean Carrigue.
Non, moi
35 enfants rapatriés.
J'ai pas d'informations aussi précises sur les concessions qui ont été faites à Erdogan par rapport
au. Il l'a dit lui-même.
Je constate simplement qu'il y avait une pression d'abord juridique de la part des grands-parents, des familles pour un certain nombre de ces femmes que d'autres pays comme la Belgique ou l'Allemagne avaient une politique, je dirais, plus douce par rapport à ce retour, plus volontariste par rapport au retour de
ils
ces...
Ils rapatriaient plus facilement leurs ressortissants.
On sait aussi que ça se passait pas très très bien sur le plan sanitaire, hygiénique, etc. dans les prisons kurdes. Donc on peut imaginer que des contingents de ce type, ça concerne une trentaine de jeunes femmes et d'enfants, puissent éventuellement être rapatriés en France sous conditions de surveillance, de contrôle, d'éducation, etc. Donc, a priori, c'est pas quelque chose qui est totalement choquant. Je ne sais pas si ça ouvre une sorte de flot ininterrompu de retour.
Mais il reste encore 150 ans, plus de 150 enfants sur place et plus de 100 femmes. Donc, il y a encore beaucoup de personnes à rapatrier.
C'est une autre question juridique, parce que vous disiez, elles sont finalement, si on est là, si elles sont en France, on est certain qu'elles seront jugées, sauf que non. Parce que par définition, établir des faits qui se sont passés du temps de l'État islamique, enfin avec quels témoins, enfin nous vivons quand même dans un État de droit. Donc vous ne condamnez pas quelqu'un sans justement être capable d'apprécier, de qualifier ce dont ils se sont rendus coupables. Et c'est toute l'ambiguïté justement de la situation. Est-ce que nous voulons appliquer le droit de la guerre en disant finalement ce sont des combattants d'un État ennemi et donc aussi longtemps qu'on considère que la guerre n'est pas terminée avec le groupe en question, en quelque sorte c'est un droit particulier qui est différent de celui du droit classique, ou alors est-ce que justement on est dans l'application du droit classique? Parce que comme on est justement sur cette ligne de crête dans l'entre-deux, manifestement pour un certain nombre de ces femmes, là elles sont surveillées au moment du retour, mais vous verrez qu'il y a des avocats et qu'il y aura des procédures
et qu'il y aura des libérations.
Pour un certain nombre d'entre elles, on ne pourra pas établir les faits dont elles se seraient rendues coupables et donc vraisemblablement elles pourront s'en tirer comme ça.
C'est un peu plus compliqué que ça, parce que nos services ont travaillé, la DGSE a travaillé, elle a enquêté, on a beaucoup de... Si elles sont en prison en Kurdistan, c'est parce qu'il y a des dossiers. Ce sont pas simplement parce qu'elles ont été ramassées comme ça.
Pour avoir regardé de près, je vous assure que c'est plus complexe que ça. Parce qu'il y en a certaines, comme Emily Koenig, parce qu'elle était très exposée. Il y en a d'autres où on ne sait pas exactement ce qu'elles ont pu faire.
Celles qu'on rapatrie sont celles dont on est sûr des dossiers. Les autres, on attend et on continue.
C'est la question qui se pose, effectivement. Quel est le critère qui a été
appliqué ?
J'aimerais être sûr de ce que dit Julien Drey. Je pense que indépendamment du rapport excellent de la DGSE, sur le plan probatoire, il y aura pour certaines la place pour leurs avocats de dire elles faisaient que la vaisselle, elles s'occupaient des enfants, elles ont été forcées, etc. Ça sera moins simple que ça, Julien.
D'accord.
Oui, c'est possible. Mais parce que leurs avocats vont essayer de les défendre. Mais il faut quand même reconnaître, parce qu'il ne faut pas toujours te charger. J'ai quand même suivi un peu tous ces dossiers-là. Nos services, ils ont travaillé.
Oui, je suis sûr.
Voilà. Ils ont travaillé.
Et puis, dissocions le cas des enfants aussi, ou des mineurs,
Ça, les enfants, c'est
autre chose. Et j'ajoute que nos services, ils ne veulent pas qu'on quitte le Kurdistan. Justement, c'est un des éléments compliqués qu'il y a en ce moment.
Et quand on a interrogé les Français sur ce rapatriement éventuel des enfants et des femmes de Syrie, c'était en 2019, le sondage Odoxa, 7 Français sur 10 étaient opposés au retour de ces enfants de djihadistes. L'opinion publique a changé aujourd'hui, elle est prête à accueillir ces enfants, vous ne croyez pas, Julien Drey ?
Non, je crois que l'opinion publique, elle a spontanément un réflexe qui est vrai, c'est-à-dire c'est pas des enfants. Bon, les enfants, c'est une chose, parce que les enfants, le plus souvent, ils sont pour rien, sauf quand ils sont pré-majeurs. Mais ces combattantes-là, c'était pas des enfants de cœur, loin de là. Et c'est pas simplement des femmes qui avaient été forcées ou qui étaient parties parce que elles étaient elles étaient amourachées de quelqu'un sur Internet. C'était des combattantes et d'après tous les propos qui ont été tenus par ceux qui ont été dans les mains de Daesh, c'était pas forcément les plus gentils après. Mmh. Je veux dire, un certain nombre
Les femmes étaient capables d'être extrêmement dures.
Un certain nombre d'otages vous raconteront qu'ils étaient traités par les femmes de Daesh de manière, c'était des combattantes, mais des combattantes au sens le plus mauvais du terme. Hein.
Bien sûr, bien sûr.